Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous écoutez Studio Tamani sur l'ensemble de notre réseau synchronisé. Mesdames, messieurs, bonsoir, voici le journal. L'armée malienne est de retour à Labzanga dans la région de Gao. Les forces maliennes s'étaient retirées de cette localité frontalière du Niger pendant plusieurs mois. Ce retour est salué par la population. Adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les travaux se poursuivent. Le document, une fois validé, devrait être soumis à la Cour constitutionnelle pour vérifier sa conformité avec les lois du pays. Plus que quelques jours avant la fête du Ramadan, dans les marchés de Bamako, l'affluence est timide. Clients et commerçants déplorent l'insuffisance des marchandises à cause de la fermeture des frontières. Voilà pour les titres, le développement dans un instant avec Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Après 4 mois d'absence, l'armée malienne a regagné ce dimanche son poste de sécurité de Labzanga dans la région de Gao. Une information confirmée par les FAMA sur leur compte Twitter. Les forces armées maliennes avaient quitté ce poste pour se replier à Ansongo en novembre 2019 suite à une menace de groupe terroriste. Les détails avec Maman Babakunta.
Selon des sources locales, ce retour a eu lieu ce dimanche dans l'après-midi. Il y a 4 mois, les forces armées maliennes avaient quitté cette position située à la frontière nigérienne pour se replier à Ansongo. Un repli qui faisait suite aux attaques meurtrières contre l'armée, dont celle d'Indeliman, où 50 soldats avaient trouvé la mort le 1er novembre 2019, déclare la hiérarchie militaire. Des sources militaires indiquent que c'est le colonel Issa Mamadou Koulibaly qui a dirigé ce retour de l'armée à Labzanga. Sur place, il a rencontré les chefs politiques, coutumiers et religieux de la ville d'Ansongo. Le colonel Koulibaly a aussi demandé l'appui et le soutien de la population afin que les combattants puissent bien mener leur mission régalienne. Rappelons que suite au retrait de l'armée dans la zone, il y a eu plusieurs assassinats dans la commune, dont celui de l'imam de Labzanga et le déplacement de plusieurs habitants de la commune de Ouattaguna. Ce retour des FAMA avait été promis par le premier ministre Dr. Boubou Cissé lors de sa visite à Ansongo en février dernier.
À Labzanga, la population salue ce retour qu'elle avait tant souhaité à cause de l'insécurité. Cependant, elle demande aux autorités de renforcer les mesures sécuritaires, notamment aux frontières. Selon la population, celles-ci sont abandonnées. Écoutons Youssouf Yeya, président de l'association des Jeunes Unis pour le développement du village de Labzanga. Il est joint au téléphone par Maman Babakunta.
Vraiment, l'armée est retournée à Labzanga. C'était vraiment un réel plaisir hier pour la communauté de Labzanga et pour toute la communauté de la commune de Ouattaguna. J'adresse vraiment ma reconnaissance à l'endroit de l'État. Je venais de la région de Gao qui nous a toujours calmés. Bon, nous, notre objectif, c'est pas facile aujourd'hui vu la situation sécuritaire qui prévaut au pays, pas au niveau de la commune, mais il faut prendre quand même des mesures pour le moment. Selon le moyen de bord au niveau de la frontière quand même, parce que du moment où la frontière est abandonnée, c'est pas du tout facile. Il faut vraiment pouvoir sécuriser quand même la frontière. Nous, on a toujours plaidé à notre arrêt, raison pour laquelle on a clamé le retour de l'armée.
Et ce retour de l'armée à Labzanga intervient au moment où les FAMA annoncent avoir appréhendé le 16 mai dernier 2 suspects terroristes à Ombori. Selon des sources militaires, ils ont été arrêtés avec des téléphones contenant des images de combattants terroristes et des contacts de certains cadres de l'État islamique au Grand Sahara. Vous pouvez réécouter toutes ces informations en consultant nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Les nouveaux textes du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sont en cours d'élaboration. Ces travaux dirigés par une commission ad hoc interviennent après l'élection plutôt du président de l'Assemblée nationale. Le document, une fois validé par les élus, sera soumis à la Cour constitutionnelle pour voir si les textes sont en conformité avec les lois de la République. Amsé Toutouré.
C'est dans une atmosphère plutôt paisible qu'a débuté cette journée. Les travaux étaient présidés par le nouveau président de l'hémicycle, Moussa Tembiné, accompagné de la plus jeune députée, Salimata Traoré, ainsi que Marthe Diawara de l'URD. Après lecture du règlement intérieur qui a duré plus d'une trentaine de minutes, la parole est donnée aux députés pour leurs suggestions sur la forme, les formulations et autres coquilles. Au total, 31 amendements ont été soumis pour examen. Le système est simple. Pour chaque amendement, c'est un oui et un non. Ensuite, la plénière départagera avec des votes. Au cours de la journée, les discussions sont devenues houleuses autour de l'article 21 du règlement. Selon ce texte, les présidents des groupes parlementaires ont le rang de vice-président de l'Assemblée nationale. Une fois les élus unanimes sur le nouveau règlement intérieur, le texte sera soumis à la Cour constitutionnelle pour voir si ça cadre avec les lois du pays. Après cette étape, les commissions et bureaux seront mis en place.
Explication signée Amsetou Touré. Parlons à présent de santé. 14 nouveaux cas de COVID-19, 18 patients guéris et 0 décès ont été enregistrés aujourd'hui, 18 mai, au Mali. Ces nouvelles contaminations proviennent de Mopti, Sikasso et du district de Bamako. La situation cumulée fait état de 874 cas positifs, 512 patients guéris et 52 décès. Comment porter le masque et quel est son importance? Réponse dans ce message de Studio Tamani.
Studio Tamani.
Pourquoi faut-il porter un masque? Parmi les dernières mesures annoncées par les autorités maliennes pour lutter contre le coronavirus, il y a le port obligatoire du masque dans les lieux publics. Pourquoi une telle mesure? Il faut savoir que le virus se propage essentiellement par les mini-gouttes de salive porteuses du virus que tout en chacun émet en toussant et éternuant, mais aussi en parlant, en mangeant, etc. Le masque est donc l'écran physique le plus évident qui soit pour faire obstacle à la propagation du virus. Il faut donc promouvoir le port du masque comme un acte citoyen d'intérêt collectif. Dans cette épidémie, chacun doit se considérer comme porteur potentiel, se protéger et protéger les autres. Quelques conseils pour bien utiliser le masque. Il faut bien l'appliquer soigneusement de façon à recouvrir le nez et la bouche et l'attacher serré de façon à l'ajuster au mieux sur le visage. Lorsque l'on porte un masque, évitez de le toucher. Et chaque fois que l'on touche un masque usagé, par exemple, en le retirant ou en le lavant, c'est laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique. Il faut éviter également de réutiliser des masques à usage unique. Les masques à usage unique sont à jeter après chaque utilisation et immédiatement après les avoir retirés.
Merci d'être au rendez-vous d'ActiCovid de ce matin. Nous parlons une fois de plus des prises en charge des patients du COVID-19. Et l'accent sera mis ce mardi sur celle de Tombouctou. À la date du 18 mai 2020, la région a enregistré 19 cas positifs, dont un décès. Selon les autorités sanitaires, la prise en charge se passe bien. Toutefois, elle déplore le manque d'équipement adéquat pour faire face à la pandémie. Plus de détails avec notre correspondant à Tombouctou, Boubacar Djité.
Toutes les dispositions sont prises pour la prise en charge des cas positifs dans la ville, nous explique les responsables sanitaires de la localité, Souleymane Sanogou, directeur par intérim à la direction régionale de la santé.
On a aussi un bâtiment avec des salles climatisées qui sont là, avec une salle de réanimation. Donc 13 patients peuvent passer dans le bâtiment. Nous avons des extracteurs d'oxygène à notre disposition.
Cependant, les responsables de l'hôpital sollicitent le renforcement de leurs capacités en moyens logistiques. Selon eux, il leur faut un laboratoire mobile pour les tests. C'est ce qu'explique Issa Diara, chargé d'épidémiologie à la direction régionale de la santé.
Ensuite, nous avons un besoin de médicaments et consommables pour la prise en charge des symptômes des cas. Ensuite, la disponibilité d'un laboratoire mobile. Ensuite, l'opérationnalisation de tous les cordons sanitaires.
Rappelons qu'il y a quelques jours, les travailleurs de l'hôpital régional de Kaï ont manifesté pour réclamer plus de moyens face à la pandémie du COVID-19.
Le district sanitaire de Sang réclame plus de matériel de protection contre le COVID-19. Selon les responsables socio-sanitaires, pour l'ensemble des 36 combes du cercle, le district n'a reçu de la direction régionale de la santé que 20 systèmes de lavage des mains, 775 masques, 35 flacons de gel, 4 combinaisons, 2 cartons de savon et 7 thermoflashs. Sur le plan international, les 194 pays de l'OMS ont échangé virtuellement ce lundi pour la première fois de son histoire. L'objectif visé à débattre de la réponse internationale de la pandémie de coronavirus, avec les tensions sino-américaines et les vaccins comme sujet de friction. Place à la question d'auditeur du jour.
Allô, pourquoi au Mali les tests de coronavirus ne sont pas décentralisés? Est-ce parce que le pays ne dispose pas de moyens pour prélever assez d'échantillons?
Pour le coordinateur national de la réponse à la maladie à coronavirus, professeur Akori Ag-Iknan, les laboratoires d'analyse dans les régions ne sont pas encore en mesure d'effectuer ces analyses.
On est en train de voir avec les jeunes experts comment est-ce qu'il y a une autre technique qui permet de faire la recherche. Si on a des cassettes avec les réactifs, on envisage généraliser ça dans la région. Au début, on n'avait pas beaucoup de tests. À l'époque, on avait près de 200 tests. Après, il y a eu un autre de 1000 tests. Après, on a eu 20 000 tests qui nous ont été donnés par JASMA, l'équipe chinoise. Aujourd'hui, on a près de 34 000 tests.
Ainsi prend fin ce numéro d'ActiCovid d'aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver demain. N'oubliez pas de limiter vos déplacements autant que possible et nettoyez les poignées des portes.
Parlant toujours de COVID-19, le district sanitaire de San réclame plus de matériel de protection contre le COVID-19. Selon les responsables socio-sanitaires pour l'ensemble des 30 centres de santé communautaires du cercle, le district a reçu de la direction régionale de la santé seulement 20 kits de lavage des mains, 775 masques, 35 flacons de gel, 4 combinaisons, 2 cartons de savon et 7 thermoflash. L'information a été donnée samedi 16 mai 2020 par le médecin-chef qui a précisé que le matériel et les équipements ont été financés par l'ONG Terre des Hommes. A noter que le cercle de sang a enregistré 2 cas de malades, 2 cas de coronavirus. À quelques jours de la fête du Ramadan, les clients ne se bousculent pas dans les marchés de Bamako. Dans beaucoup de magasins, la mévente se fait sentir. Certains commerçants décrit cette situation. Selon eux, le manque de clientèle est dû à la baisse du pouvoir d'achat des Maliens et à la pandémie du COVID-19. Le reportage de Lala Aïcha.
Clientèle timide, marchandises insuffisantes dans les marchés de Bamako, les commerçants se plaignent en cette veille de fête. À cause de la pandémie du coronavirus et les mesures restrictives imposées pour faire face à la maladie.
Et à cause de la maladie, on n'a pas pu avoir de nouvel arrivage de marchandises. Quoi. C'est ça qui pose un peu de problème dans les ventes.
On travaille chaque fête, mais cette année-là, on ne travaille pas beaucoup. Un peu, à cause des fermetures de frontières. Là. Et puis, s'il n'y a pas d'étrangers qui viennent ici, nous, on ne travaille pas.
Outre le commerçant, les clients aussi constatent une insuffisance des marchandises dans les marchés. Pascaline Bayo a fait le tour de plusieurs magasins avant d'avoir la marchandise qu'elle cherche.
J'ai été dans d'autres boutiques. Je n'ai pas été satisfaite. Il y a peu de marchandises. Eux-mêmes aussi, ils se plaignent de la maladie, qu'ils n'ont pas pu faire venir leurs marchandises.
Pour des commerçants, il est clair que la fête de Ramadan de cette année sera différente de celle de l'année dernière. Car, selon eux, en plus de l'angoisse liée à la maladie, les poches seront aussi vides.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, 172 enfants des réfugiés venus du Niger et installés à Minaka depuis 2 ans iront bientôt en classe. Ils viennent de bénéficier de l'appui d'un responsable du mouvement pour le salut de l'Azawad dans ce sens. Chacun des enfants a reçu un sac d'écoliers et des fournitures scolaires et une demi-tonne de riz pour la cantine. Selon le donateur, l'enseignant sera également pris en charge dans un premier temps pour 3 mois, mai, juin et juillet. Le geste a été salué par les responsables du camp. Ils ont souhaité voir d'autres bonnes volontés pour que les enfants puissent étudier normalement. Un véhicule quittant Al-Mustarat pour Gao a été intercepté dimanche dernier par des inconnus armés à moto à quelques kilomètres d'Al-Mustarat. Selon des témoins, un passager qui n'a pas voulu obtempérer a été tué par balle sur le coup. Les bandits ont fui avec les biens des passagers, rapportent les mêmes sources. Dans un instant, ce sera le grand dialogue avec Mohamedou Touré. Bonsoir Mohamedou.
Oui, bonsoir, c'est Kouga Djigo. Le thème du grand dialogue de ce soir, c'est 1 an de l'accord politique au Mali. Quel bilan? Nos invités sont Hamidou Doumbia du parti LMA, Mamadou Diko du parti URD et Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat.
Merci à Mohamedou Touré et nous vous souhaitons un bon débat. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Sekou Gadigo. À la mise en onde, il y a Mamadou Ouattara. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le magazine. C'est
Tamani.